إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous avons vu hier la fermeté de Yusuf alayhi salam face à la tentation et comment ce dernier invoqua Allah subhanahu wa ta'ala afin de le préserver du péché et qu'il préféra être mis en prison plutôt que de rester face à cette tentation. Nous allons voir aujourd'hui quelques versets au sujet de son passage en prison et ce jusqu'au moment où il en sortit honoré. Bien sûr, nous n'allons pas voir en détail chacun des événements qui sont mentionnés à ce sujet, mais nous allons seulement nous arrêter sur quelques versets à méditer. Lorsque Yusuf alayhi salam fut mis en prison, deux jeunes gens entrèrent en même temps que lui. Ces derniers firent chacun un rêve qu'ils racontèrent à Yusuf alayhi salam en lui demandant de leur interpréter. Yusuf alayhi salam leur répondit alors « Dhalikuma mimma allamani rabbi » Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. C'est-à-dire que l'interprétation des rêves est une science dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait don à Yusuf alayhi salam et lui a enseigné cette science. Mais avant de leur interpréter leurs rêves, Yusuf alayhi salam jugea qu'il était tout d'abord nécessaire de leur parler d'une chose qui était prioritaire. Il leur dit donc « Inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billah » وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui mécroit en l'au-delà. Yusuf a.s. était sur la religion d'Ibrahim a.s. Mais lorsqu'il dit ici « j'ai abandonné la religion d'un peuple », cela ne signifie en aucun cas qu'il était sur cette religion puis l'a délaissée. Mais cela signifie qu'il l'a abandonnée dans le sens où il n'a jamais été sur cette religion de fausseté. Puis il dit وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres. Qui sont ces ancêtres? Ibrahim, Ishaq et Ya'qub. عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ Donc Yusuf alayhi salam les informe ici qu'il a suivi la religion de ses ancêtres vertueux, la religion de ses pieux prédécesseurs parmi les prophètes عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ qui était sur la religion de vérité. Puis il leur explique en quoi consiste cette religion en disant « Ma kana lana an nushrika billahi min shay » Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Il leur explique donc que la religion tout entière ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'est pas permis de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ensuite il leur dit ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. C'est-à-dire qu'être sur la religion de vérité, c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est important pour le serviteur d'être conscient de cela. Et de faire preuve de reconnaissance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce don immense. Car il n'y a pas une faveur plus immense dont tu peux être comblé ici-bas que le fait d'être sur la religion de vérité. D'avoir été choisi au milieu de cette majorité de gens égarés sur le faux, sur le polythéisme et la mécréance pour faire partie des serviteurs monothéistes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui vouent un culte exclusif dans l'adoration et qui suivent la sunna de son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Yusuf alayhi salam de leur dire, « Ya sahibay sijn, a arbabum mutafarriqun khayrun amillahu al-wahidul qahhar » Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur, des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? C'est-à-dire, pensez-vous que des divinités incapables de nuire ou de profiter, qui sont éparpillés entre les arbres, les pierres, les morts, les tombes, les mausolées, et ainsi de suite. Pensez-vous que ces divinités sont meilleures qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est unique, et qui domine tout cet univers, seul sans associé. Il n'y a pas de doute qu'adorer autre que le Créateur est une chose insensée. C'est pour cela qu'il leur dit « Ma ta'buduna min dunihi illa asma an sammaytumuha antum wa aba'ukum. » Vous n'adorez en dehors de lui, en dehors d'Allah, que des noms que vous avez inventés. Vous et vos ancêtres. « Ma anzalallahu biha min sultan. » Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. C'est-à-dire que vous adorez des choses que vous avez vous-même nommées divinités. Alors que ces choses ne possèdent rien. Ni le pouvoir de nuire, ni le pouvoir de profiter, ni le pouvoir de donner la vie, ni le pouvoir de donner la mort. Elles ne possèdent rien de cet univers, ni aucun attribut de divinité. Elles ne méritent donc pas d'être adorées. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné cela. Au contraire, il leur dit « Inil hukmu illa lillah » Amara alla ta'budu illa iya. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. C'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. De lui vouer un culte exclusif dans l'adoration. Et non pas d'adorer des pierres, d'adorer des arbres, d'adorer des morts. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné cela. Ceci a été instauré par les hommes qui ont suivi les pas du diable. Donc Yusuf alayhi salam les appela donc à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé et à délaisser l'adoration de tout autre que lui. Puis il dit « ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » Telle est la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens sont dans l'égarement. La plupart des gens sont dans la mécréance, le polythéisme. La plupart des gens ne sont pas sur cette religion de droiture. C'est pour cela que le serviteur se doit de faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala si Allah l'a guidé à cette religion. Et on voit une fois de plus à travers cela que l'appel au tawhid, l'appel à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, l'appel à délaisser le shirk, à délaisser le polythéisme, ceci est le message avec lequel sont venus l'ensemble des prophètes et des messagers, alayhim salatu wa salam. Et ceux de Nuh jusqu'à Muhammad, tous sont venus appelés à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on le voit ici, à travers ces paroles de Yusuf alayhi salam. Donc après cela, après les avoir appelés à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, Yusuf alayhi salam interpréta les rêves de ses deux compagnons de prison. Et il sut à travers cela que seul l'un d'eux serait sauvé. Il lui demanda alors d'attirer l'attention de son maître sur sa présence en prison, afin qu'il l'en fasse sortir. Mais le diable fit oublier à cet homme, et Yusuf alayhi salam séjourna encore quelques années en prison. Puis Allah subhanahu wa ta'ala prépara les causes de sa sortie. Il fit voir au roi un rêve surprenant qui attira son attention, et ce dernier en chercha alors l'interprétation. Car il lui apparut que ce rêve avait besoin d'être interprété, et qu'il était d'une grande importance pour toute la communauté. Il réunit donc ses conseillers pour leur en demander l'interprétation. Mais ces derniers prétendirent que ce n'était qu'un cauchemar, et qu'ils ne pouvaient pas interpréter un cauchemar provenant du diable. Et tout ceci fait partie des causes qui ont mené Yusuf alayhi salam à être honoré, et à montrer à tous sa supériorité et son rang éminent. Car à ce moment, l'ancien compagnon de prison de Yusuf alayhi salam se rappela de lui, et il se rappela que Yusuf alayhi salam était en mesure d'interpréter ce rêve. Il demanda alors l'autorisation d'aller le voir pour qu'il puisse interpréter le rêve du roi. Et Yusuf alayhi salam, lorsqu'il vit cet homme venir à lui, il ne lui fit pas de reproche. Il ne lui dit pas « Ce n'est que maintenant que tu te souviens de moi. Pourquoi m'as-tu oublié ?» ou autre parole de ce genre. Mais Yusuf alayhi salam fit preuve d'indulgence à son égard. Et il interpréta le rêve du roi. L'homme retourna alors auprès du roi qui en fut réjoui. Car l'interprétation de ce rêve leur permit d'anticiper des années de sécheresse et de disette. Suite à cela, le roi ordonna alors de faire sortir Yusuf alayhi salam de prison. Mais Yusuf refusa de sortir jusqu'à ce que son innocence soit proclamée publiquement. Il demanda donc à l'émissaire du roi, qui était venu lui annoncer sa libération, de retourner auprès du roi et d'interroger les femmes qui s'étaient tailladées les mains. Le roi les convoqua alors, et ces dernières innocentèrent Yusuf et avouèrent qu'elles ne connaissaient de lui que du bien. La vérité au sujet de Yusuf alayhi salam devint alors claire. Et la femme d'Al-Aziz avoua donc que c'est elle qui avait tenté de séduire Youssouf alayhi salam, et elle dit qu'elle avoue cela afin que son mari sache qu'elle n'avait pas commis le grand interdit avec Youssouf alayhi salam, mais que ses agissements s'étaient arrêtés à des tentatives. C'est pour cela qu'elle dit ذَلِكَ لِلْيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence et qu'en vérité Allah ne guide pas la ruse des traîtres. En effet, les traîtres finissent toujours par se faire dévoiler, tôt ou tard. Et la véracité des véridiques apparaît toujours au grand jour, tôt ou tard. Il faut juste faire preuve de piété et d'endurance. Toutefois, les propos de cette femme impliquaient une sorte de purification, dans le sens où elle n'aurait commis aucun péché. Elle se reprit donc ensuite et dit « وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Toutefois, je ne m'innocente pas, car l'âme est très incitatrice au mal, sauf celui à qui mon Seigneur fait miséricorde, c'est-à-dire en la préservant du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. » C'est-à-dire ici qu'elle clarifie qu'elle ne s'innocentait pas du fait d'avoir tenté de faire tomber Youssouf alayhi salam sous son charme et d'avoir tenté de le séduire. Car l'âme incite au péché et le diable la pousse à celui-ci. Et seuls ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde en sont préservés. Après cela, le roi comprit que Youssouf alayhi salam était innocent. Il dit donc « Ittouni bih, astakhlisru li nafsi. » Le roi dit « Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. » « Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. » Et lorsqu'il lui parlait à Youssouf alayhi salam, il se rendit compte de sa noblesse, de sa véracité, qu'il était digne de confiance. Il lui dit donc « Tu es dès aujourd'hui près de nous en une position d'autorité et de confiance. » Alors Youssouf alayhi salam de lui dire « Ij'alni ala khaza'inil ard, inni hafidhun alim. » « Assigne-moi au dépôt du territoire, c'est-à-dire la gestion des stocks et la gestion des récoltes. » Il lui dit « Je suis un bon gardien et connaisseur à ce sujet. » Youssouf alayhi salam, en faisant cette demande, il n'a pas recherché le pouvoir ou l'autorité. Mais étant conscient de ses compétences dans ce domaine, et qu'il était digne de confiance, il voulut être utile à la communauté. C'est pour cela qu'il demanda ce poste. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ. Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Youssouf sur ce territoire, et il s'y installait là où il voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons, et nous ne faisons pas perdre la récompense des bienfaisants. » Youssouf alayhi salam, en raison de sa bienfaisance, comme on a vu, sa bienfaisance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa grande piété, sa grande chasteté, et également sa bienfaisance envers les gens, il fut ainsi de nouveau honoré, en raison de sa bienfaisance, sa patience et sa piété. Il passa donc, une fois de plus, de la difficulté à la facilité. Il quitta la prison et se retrouva auprès du roi honoré. Et toutes ces étapes étaient nécessaires pour lui faire atteindre ce rang éminent. Après cela, Youssouf alayhi salam se retrouva à un poste qui l'amena à retrouver ses frères, et c'est ce que nous verrons, Inch'Allah ta'ala, dans le cours de demain. On tire donc de cette partie du récit différents enseignements. Premièrement, on voit à travers cela que l'interprétation des rêves est une science à part entière. Et cette science n'est pas donnée à tout le monde, n'est pas permis aux gens de s'autoproclamer dans ce domaine et d'interpréter aux gens leurs rêves selon ses passions et ses désirs ou avec ignorance. Et de la même manière, il ne convient pas aux musulmans de raconter ses rêves au premier venu afin d'en trouver une interprétation. Et il n'est pas permis aux gens de parler sur ce sujet sans science. Même si on t'interroge, même si une personne vient à toi et te raconte un de ses rêves, ne cherche pas à l'interpréter ou à en donner une signification, mais dis simplement que tu ne sais pas. Regarde ici les conseillers du roi qui ont prétendu que son rêve était un cauchemar Il aurait pu se résigner et se dire que ce n'était qu'un cauchemar. Et alors il n'aurait pas profité de la bonne interprétation que son rêve avait et qui fut la cause pour les préserver des années de disette. Donc si on t'interroge à ce sujet, dis tout simplement « je ne sais pas ». Et ceci est la meilleure des réponses que tu peux donner. Tout en sachant qu'interpréter les rêves n'est pas une obligation. De même qu'il ne convient pas de croire qu'un rêve se réalisera forcément. Il est possible qu'une vision se réalise, comme il est possible qu'elle ne se réalise pas. Et de la même manière, le croyant ne doit pas être effrayé ou perturbé par ce qu'il voit durant son sommeil. Si tu vois une chose plaisante, alors il est légiféré pour toi de t'en réjouir et d'espérer le bien, car ceci fait partie de l'optimisme et de la bonne opinion que le croyant se doit d'avoir de son Seigneur. Mais si tu vois une chose qui te chagrine ou une chose qui te fait peur, alors tu dois t'en détourner. Cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable et contre le mal que tu as vu dans ce cauchemar. Puis change de côté. Et si tu le souhaites, tu peux te lever afin de prier, ceci afin de dissiper ta peur et ton angoisse que ce rêve aurait pu provoquer en toi. Et tu ne dois en informer personne. Si tu fais cela, tu seras à l'abri du mal de cette mauvaise vision, inshallah ta'ala. Comme on le retrouve dans des hadiths rapportés par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Le premier dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les rêves sont de trois sortes. Le beau rêve, qui est une bonne annonce de la part d'Allah, le rêve attristant, qui provient du diable, et le rêve qui provient des pensées de la personne. » C'est-à-dire que, par exemple, tu pensais à une chose avant de dormir, alors tu en as rêvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite « Si l'un d'entre vous voit une chose qu'il répugne, qu'il se lève, qu'il prie et qu'il n'en informe personne. » Et dans un autre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam « Le beau rêve provient d'Allah. Si l'un d'entre vous voit une chose qui lui plaît, alors qu'il n'en parle qu'à ceux qu'il aime, que à ceux que tu aimes. Et s'il voit ce qu'il répugne, qu'il crachote trois fois à sa gauche, qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre le diable, et qu'il n'en parle à personne, et ceci ne lui nuira point. » Tel est le comportement que doit adopter le croyant vis-à-vis de ses rêves. Le deuxième enseignement que l'on tire de cette partie du récit est que la priorité dans l'enseignement et le prêche est l'appel au tawhid. L'appel à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah. Même si une personne s'interroge sur un autre sujet, il convient de l'orienter vers ce qui est prioritaire pour elle. Et ceci est une chose très utile pour nous si nous sommes amenés à côtoyer des personnes qui s'interrogent au sujet de l'islam. Il se peut que une personne non musulmane vienne à toi et t'interroge sur des questions secondaires liées à la religion. Et certains musulmans, lorsqu'ils se retrouvent dans ces situations, ils rentrent alors avec eux dans de longs débats sur des choses qui ne sont pas des priorités. Si une personne vient à toi et t'interroge sur ces choses, oriente-la vers ce qui est prioritaire pour elle. Oriente-la vers la base de cette religion sur laquelle il lui convient de s'interroger. Fais comme Yusuf alayhi salam a fait avec ses compagnons de prison. Rappelle-lui que la religion de vérité, sa base fondamentale est de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et à s'écarter de toute forme de polythéisme. Qu'on ne doit pas adorer les arbres, qu'on ne doit pas adorer les pierres, qu'on ne doit pas adorer les tombes, qu'on ne doit pas adorer la croix, et ainsi de suite. Si c'est une personne avec des origines chrétiennes, rappelle-lui que Isa alayhi salam est un prophète, qu'il n'est pas un dieu, qu'il ne mérite pas d'être adoré ni d'être invoqué en dehors d'Allah, et ainsi de suite. Tu orientes les gens vers ce qui est prioritaire pour eux. Et tu ne perds pas de temps à débattre avec eux sur des sujets secondaires, au sujet desquels connaître la vérité à leur sujet ne leur sera d'aucune utilité tant qu'ils donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième enseignement que l'on tire de cette partie de récit est que lorsque les ancêtres sont sur la droiture et la religion de vérité, alors les suivre est une chose louable. Mais le suivi des ancêtres est blâmable lorsque ces derniers ne se conformaient pas à la religion de vérité. Mais s'ils étaient sur la droiture, se conformaient à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, leur suivi dans le bien est une chose louable. Regarde ici comment Yusuf alayhi salam informe ses compagnons de prison qu'il suit la religion de ses ancêtres. Qui sont ses ancêtres? Ibrahim, Ishaq et Ya'qub alayhi salam, des nobles prophètes. Donc ceci est une réponse à ceux qui argumentent avec les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala blâme le suivi des ancêtres pour dénigrer ceux qui appellent au suivi des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. En effet, certaines personnes, lorsqu'on leur dit qu'il nous incombe de revenir à la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, il se peut que dans leur ignorance, ils viennent à toi et argumentent avec les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala blâme le suivi des ancêtres. Et ceci de la pure ignorance. Car le suivi des ancêtres, il est blâmable lorsque ceci était sur le faux. Mais si ceci était sur la vérité, qui des plus est, lorsqu'ils sont les meilleures générations de cette communauté desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges, alors il n'y a pas de doute que les suivre est une chose louable, c'est même ce qui nous incombe et ce qui nous a été ordonné. Le quatrième enseignement que l'on tire de cette partie du récit est qu'il est obligatoire pour le croyant d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits dont il nous a comblés. Et parmi les plus grands bienfaits dont il nous a comblés, il y a le fait de nous avoir guidés à la religion de vérité, de nous avoir guidés à l'islam, de nous avoir guidés au tawhid, de nous avoir guidés au suivi de la sunna, de nous avoir guidés au suivi de la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Tout ceci fait partie des bienfaits les plus immenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Et tu dois être conscient de cela. Tu dois être conscient que c'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée. Et tu dois faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. Et faire tout pour le préserver, pour ne pas le perdre, pour préserver ce bienfait. Et pour ce faire, tu dois préserver ta religion. T'écarter de tout ce qui pourrait mettre en danger ta religion et ainsi de suite. Car comme tu le vois aujourd'hui, les gens sur terre sont des milliards. Mais combien parmi eux suivent la religion de vérité? Combien parmi eux voient un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala? Et s'ils voient un culte exclusif à Allah, combien parmi eux suivent la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit? Combien parmi eux reviennent à la compréhension des pieux prédécesseurs rahimahumullahu ta'ala pour comprendre les textes du Coran et de la sunna? Tu vois qu'ils sont très peu. L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et redeviendra étrange comme il a commencé. Fatouba lil ghuraba. Annonce la bonne nouvelle de Touba au ghuraba. Touba, comme l'ont mentionné des gens de science, c'est le paradis. Ou un arbre au paradis. Annonce la bonne nouvelle à ces étrangers. Ces gens qui seront peu mais sur la vérité. Lorsque les gens seront corrompus, qu'ils auront le paradis. Mais pour cela, nous devons faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et rester fermes sur cette religion. Et nous écarter de tout ce qui pourrait porter atteinte à notre foi ou la faire diminuer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur sa religion, de nous raffermir sur le tawhid et la sunna jusqu'au jour de sa rencontre. Le cinquième enseignement que l'on tire de cette partie du récit est que lorsque la personne est accusée d'une chose dont elle est innocente, il est important pour elle de faire apparaître son innocence au grand jour, de laver son honneur, et de ne pas laisser des doutes peser à son encontre. En effet, si des personnes ont menti à ton encontre, ou t'ont suspecté d'avoir commis des péchés desquels tu es innocent, il est nécessaire pour toi de ne pas laisser planer ce doute. Mais tu dois t'en innocenter, montrer que tu es loin de ce péché. Comme l'a fait Youssouf alayhi salam, en refusant de sortir de prison avec ce doute qui planait à son sujet. Mais il a voulu tout d'abord que son innocence soit proclamée au grand jour. Et de la même manière, on voit que la femme d'Al-Aziz a avoué ce dont elle était coupable. Pourquoi? Afin de ne laisser planer aucun doute quant au fait qu'elle aurait pu commettre le grand interdit. Tout cela également afin de faire apparaître son innocence à ce sujet. Donc il ne faut pas faire comme certaines personnes qui, lorsqu'elles sont accusées de certaines choses, se disent « Moi je n'ai qu'à faire de ce que disent les gens. Je les laisse parler. Qu'ils disent ce qu'ils veulent à mon encontre. » Non. Si la situation est douteuse, s'il y a réellement des suspicions à ton sujet, il te convient de laver ton honneur et de ne laisser planer aucun doute à ce sujet. Tout en sachant que les injustes finissent toujours par se faire démasquer. Ceux qui calomnient les croyants, ils finissent tôt ou tard par se faire démasquer. Ceux qui commettent des injustices à l'encontre des croyants, ils finissent tôt ou tard par se faire démasquer. Donc, fais preuve de patience et clame ton innocence autant que tu peux, avec science et sagesse de la meilleure manière, afin de ne laisser planer aucun doute à ton sujet dans ce genre de situation. Éloigne-toi des situations dans lesquelles tu pourrais être suspecté de certaines choses. Ne reste pas dans des endroits ambigus ou dans des situations ambiguës qui pourrait amener les gens à se poser des questions à ton sujet. Mais fais en sorte que ta situation soit claire. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, et celui qui s'éloigne des ambiguïtés, des choses ambiguës, ou des situations ambiguës, ou des lieux ambiguës, il a certes mis son honneur et sa religion à l'abri. Le sixième enseignement que l'on tire de cette partie du récit, c'est que l'âme est incitatrice au mal. Elle a un penchant pour les péchés, et il te convient de la dompter, de prendre le dessus sur elle et la contraindre à se soumettre à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, en la contraignant à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en sachant que si tu arrives à atteindre cet objectif, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve et qu'il accorde à ton âme la quiétude et la tranquillité et le bien-être dans son obéissance et dans le délaissement des péchés, tu dois être conscient que ceci est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée et qu'il accorde cette faveur à qui il veut parmi ses serviteurs. Donc si tu as réussi à atteindre ce but, tu dois faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala car c'est un don dont il fait grâce à qui il veut parmi ses serviteurs. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra la fin du récit de Yusuf alayhi salam dans le cours de demain, inshallah ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا